Vous écoutez Radio Libre.
Ah, le Conseil fédéral, Graal de toute carrière politique. Vu d'en bas, on a l'impression qu'ils sont tout puissants, et ils le sont quelque part, notamment grâce au manque de réaction de la société civile. Sur de plus en plus de dossiers, le gouvernement suisse ne travaille plus dans l'intérêt de la société civile et de la constitution qu'ils ont pourtant juré de servir, mais pour les intérêts économiques d'entités toutes puissantes. Par contre, pour payer les pots cassés, là, la société civile n'est pas oubliée. L'affaire du Crédit Suisse, une fois de plus, montre tous les symptômes de cette dérive devenue systématique. Selon le Financial Times, UBS et Crédit Suisse auraient fusionné sous pression américaine. Radio Libre a reçu l'économiste Liliane Held Kawam, connue de longue date pour alerter la population via son blog et ses livres sur les risques d'une gouvernance mondialisée. Dans cet entretien, elle éclaire les événements récents entourant le Crédit Suisse à la lumière d'une perspective plus large. Elle démontre notamment que dans cette affaire, le gouvernement et l'administration bafouent l'état de droit avec des tours de passe-passe qui mèneraient n'importe quel citoyen normal au pénal, en décrétant au passage une immunité pour les impliqués et la nullité de la loi sur la transparence pour cacher tout ça. De plus, aucune limite n'est fixée dans le montant des aides que l'État s'engage avec nos avoirs à injecter dans ses banques systémiques via une banque nationale suisse en roue libre et leurs sous-traitants privés. Open bar pour les banquiers sans scrupules et leurs actionnaires. Retrouvez les liens de ce podcast en cherchant son numéro sur radiolibre.ch 15878 15878. Bonne écoute.
Expression libre.
Bonjour Liliane Held, comment allez-vous?
Mais je vais très bien, monsieur Charlie Pache, ça va très très bien. Et vous?
Très bien, vous êtes donc économiste, hein, on vous suit depuis de nombreuses années, vous avez écrit de nombreux ouvrages qui alertent l'opinion sur les problèmes économiques, les problèmes du monde de la finance, les changements de loi, de constitution qui sont risqués en fait pour la population et puis que les politiciens pour la plupart ne voient pas. Donc là vous êtes une lanceuse d'alerte et récemment vous avez écrit un article très intéressant sur l'ordonnance qui a entouré la fusion en fait entre l'UBS ou le rachat du Crédit Suisse par l'UBS. Est-ce que vous pouvez peut-être détailler qu'est-ce que vous avez découvert?
Mais peut-être quelques mots avant pour expliquer le contexte de tout ça. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est la construction du nouveau monde. Et du nouveau, c'est comme une restructuration d'entreprise, si vous voulez, mais ça s'est fait au niveau des États. Et ça s'est fait par la construction d'un réseau d'établissements financiers. Il n'y a pas que les banques, hein. Il y a les assurances, il y a les gestionnaires d'actifs, il y a d'autres établissements que les banques, hein. Et ce réseau couvre la planète entière. C'est pour ça que, on va dire, le réseau et les dangers, les risques sont systémiques. Et c'est juste, hein. C'est-à-dire qu'on a construit un système dans lequel se trouvent Crédit Suisse, UBS, Société Générale ou d'autres, hein, d'accord. Et vous avez comme ça les grands pays, les pays qui ont une puissance financière sont tous représentés là-dedans. Les Japonais, il y a les Chinois, tout le monde est représenté dans ce système. Donc, quand ce système va mal, d'accord, ça se répercute non seulement sur une seule banque, c'est pas une banque qui va, mais une banque peut détériorer la santé de l'ensemble du système, d'accord? Et après, ça a des répercussions sur toutes les sphères de la société des pays. Pourquoi? Parce qu'on a financiarisé l'ensemble des activités productives. Ensemble des activités productives, ça veut dire quoi? Ça veut dire la production de viande, la production de farine pour faire du pain. On a besoin de passer par le marché financier. D'accord? Et là, on retrouve ces mêmes personnes qui tiennent le fameux réseau mondial. Donc, c'est un peu comme une espèce de toile qui a pris un peu la planète dans ses fils. Alors, ce qui m'a beaucoup étonnée dans cette ordonnance que j'ai découverte, dont les gens parlent, les médias grand public parlent très peu, c'est que il y a un conseiller fédéral qui a signé, qui institutionnalise en fait une espèce de garantie à ces établissements de grande taille qu'on appelle « too big to fail » et qui posent des problèmes de risque systémique. D'accord. Donc, il faut quand même comprendre que même si Crédit Suisse, on dit qu'il est suisse, il n'a rien de suisse, à part le nom, et puis éventuellement sa holding, elle est inscrite en Suisse, mais c'est géré par des Américains, par des Allemands, etc. C'est la même chose avec UBS. C'était le même scénario avec Swissair, hein, aussi. Swissair, c'était les débuts de ces choses-là. Donc, mais bon, Swissair, c'est autre chose. Quand M. Berset signe un papier de ce style-là, ce papier soulève des questions, d'accord ? Quelle est l'étendue de la garantie sur laquelle il engage l'ensemble de la population et l'ensemble du patrimoine suisse ? La question, elle est posée, hein, parce que ce qu'il faut savoir avec ces établissements bancaires, c'est qu'au-delà du bilan, il y a tout ce qui est hors bilan. Et tout ce qui est hors bilan, c'est ce qui se passe sur le marché de l'ombre, c'est le marché privé, qu'on ne connaît pas. Et M. Berset probablement non plus. Donc, moi, en tant que mère et grand-mère de citoyens suisses, je voudrais savoir ce sur quoi M. Berset nous engage. C'est plus l'économiste qui parle, c'est la citoyenne. Et en tant que citoyenne, j'aimerais des réponses. Alors, j'ai essayé d'approcher une personne d'un certain... un spécialiste des questions bancaires, j'ai posé ma question, j'ai mis l'ordonnance, il m'a dit qu'il n'était pas capable de répondre. Alors, je ne sais pas s'il n'est pas capable parce que c'est politique ou s'il n'est pas capable parce que c'est les limites de l'ordonnance, du champ d'application sont floues, vous voyez. Personnellement, je n'ai pas trouvé de limite.
Alors, quels sont les termes peut-être de cette ordonnance?
Alors, attendez, les termes, c'est... Déjà, l'ordonnance, le titre, hein, moi je vous donne le titre, moi je ne suis pas juriste, hein, et encore moins du secteur public, mais l'ordonnance, ça porte sur les traits d'aide supplémentaire par rapport à quoi? On ne sait pas, sous forme de liquidité et l'octroi par la Confédération de garantie du risque de défaillance pour les prêts d'aide sous forme de liquidité de la Banque nationale suisse à des banques d'importance systémique. Alors, c'est très intéressant parce qu'il faut quand même que tout le monde sache qu'en Suisse, on a 5 banques d'importance systémique. On n'a pas que UBS et Crédit Suisse, on a aussi tout le réseau Raiffeisen, on a PostFinance, on a la ZKB qui est la Banque cantonale de Zurich, qui est un monstre, hein, accessoirement. Et puis, on a un autre problème dans tout ça, on a la Banque nationale suisse qui est là-dedans. Et moi, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce système quand j'ai vu que la Banque nationale suisse s'était arrimée à l'euro en septembre 2011. Les banques européennes étaient en train de faire faillite, donc je me disais, mais des banques systémiques donc. Hein. Je me disais, mais je ne comprends pas pourquoi elle engage le franc suisse à l'euro. C'était très curieux comme comportement. Voilà, donc je trouvais que... la démarche était quand même pas mal risquée. Hein.
D'accord. Et puis on peut peut-être rappeler que la Banque nationale suisse, elle est aussi ouverte à un actionnariat étranger. Hein. Je crois qu'un des plus gros actionnaires privés qui détient 7% de la BNS est un Allemand, hein, c'est ça?
Exact. Donc elle est de plus en plus privée d'ailleurs, la part du privé augmente. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la Suisse, était une, je dis était parce que maintenant elle ne va pas très bien, hein, mais avec ce qui s'est passé avec Crédit Suisse, ça va entacher durablement la réputation d'un gouvernement qui ose... en fait, moi je dis, il a nationalisé l'espace quelques secondes le Crédit Suisse, le temps de le refiler à UBS, parce qu'on n'ose pas en principe... passer outre des conseils d'administration, des assemblées d'actionnaires, etc. C'est un espace privé. Hein. Le Crédit Suisse, c'est un espace privé.
D'accord.
UBS, c'est un espace privé aussi. Donc, pas très bien de quel droit les représentants de l'État ont pu entrer là-dedans et puis formuler des demandes qui sont stratégiques pour une entreprise. Et sans se référer aux propriétaires. hein, de ces entreprises. Alors voilà, donc c'est quelque chose qui est quand même très très curieux de ce qui s'est passé là.
Quelles sont les lois qui ont été bafouées, mises à mal, les lois que normalement tout un chacun doit suivre, mais qui dans ce cas, par le Conseil fédéral, ont été mises de côté?
Il y a deux choses. Il y a quand la ministre des Finances avec le représentant de la Banque nationale suisse et la représentante de la FINMA, quand ils ont lancé un coup de fil au patron de l'UBS en lui disant « maintenant tu dois racheter Crédit Suisse ». Ça, à ce moment-là, on est passé outre tout le code des obligations. Hein. C'est-à-dire, nous deux, si on faisait ce genre de choses, c'est du pénal. Hein. On ne pourrait pas zapper l'Assemblée des actionnaires. On ne peut pas. C'est quelque chose qui est formellement interdit. Et ça, c'est le code des obligations. Donc, tout ce droit commercial qu'on a l'habitude de respecter ne l'a pas été. D'accord ? Maintenant, après, dans l'ordonnance, on a plusieurs problèmes. Hein. On a le problème du fait de traiter des gens qui représentent ces banques qui ne sont pas du tout inquiétés quand il y a mauvaise gestion, et ça fait maintenant un bon moment depuis 2008 que ça dure. Ce sont des gens qui sont qui détiennent une immunité totale, hein. On a un problème avec ça. Or, la Constitution dit bien que tous les citoyens sont égaux devant la loi. Donc, au jour d'aujourd'hui, on devrait demander à ce que ces responsables de banques systémiques soit entendu par des représentants de la justice. Ce serait un minimum, hein, d'accord ? Ce qui, à ma connaissance, n'a pas été fait. Maintenant, par rapport à cette ordonnance, on dit on va garantir des prêts pour des centaines de milliards. Hein, donc on n'est plus dans les millions, on est dans les milliards, et on n'est plus dans les quelques milliards, on est dans les centaines, hein. Et en fait, le gouvernement donne à la Banque centrale les fonds propres, en fait, sous forme de garantie, les fonds propres pour accorder ces prêts. En disant, au fond, si à un moment donné, cet argent est perdu, nous, on garantit cet argent. Nous, État suisse, on garantit ces prêts. Et on peut supposer que dans l'appellation ordonnance sur les prêts d'aide supplémentaires sous forme de liquidité, on peut imaginer que aujourd'hui je donne 9 milliards, mais demain je peux donner 20 milliards. Après-demain, on ne sait pas. En fait, moi je ne veux pas m'engager là-dedans, je ne sais pas. Je ne sais pas lire entre les lignes d'une ordonnance pareille, je ne sais pas. Donc il faudrait que quand même quelqu'un, un citoyen, des députés posent la question à M. Berset ou le Parlement, je ne sais pas, qu'on lui pose la question, qu'est-ce qu'il y a ? Il faut qu'il vienne expliquer devant le public ce sur quoi il engage l'argent du public qui l'observe. Je veux dire, le public, ce n'est pas quelque chose d'anonyme, c'est tous les citoyens.
C'est la population au final, c'est la société civile qui paye la facture au final.
Monsieur Berset n'a pas les milliards dont on parle.
Voilà.
Donc, dans la mesure où il ne les a pas. Mais aussi, il est en train de cautionner l'engagement de la Banque nationale suisse. Vous comprenez ? Donc, il y a un effet direct, c'est une garantie. J'ai entendu quelqu'un dire que la garantie, oui, ce n'est pas de l'argent qui sort. Ce n'est pas vrai. Hein. Une garantie, c'est tout à fait, c'est un acte officiel qui normalement devrait même être pris en compte dans une comptabilité. Moi, si j'accorde une garantie officielle bancaire à quelqu'un, je dois faire figurer cette chose dans ma comptabilité. Donc non, l'argent ne sort pas forcément tout de suite, dès que je demande à voir, mais l'argent est déjà mis de côté, si vous voulez. On doit en tenir compte dans la comptabilité nationale. D'accord ? Et après, il y a le côté indirect, c'est-à-dire j'accorde des liquidités, j'accepte que la Banque nationale suisse sorte de son rôle habituel. Ça, c'est un effet secondaire. C'est pas dit, hein. Mais je suis en train d'officialiser la mise de liquidités à destination des banques d'importance systémique par la Banque nationale suisse. Et de nouveau, je repose la question que je pose depuis 2011, d'où vient l'argent avec lequel la Banque nationale suisse tête des actifs et grâce auquel elle est passée d'une centaine de milliards de son bilan. À un moment donné, elle était à 1000 milliards, mais maintenant, elle est redescendue. On voit que l'année passée, elle a souffert elle-même avec l'histoire du Crédit Suisse. Probablement que Crédit Suisse a dû mettre moins d'argent sur son compte de la Banque nationale. Il se passe quelque chose là, de nouveau, dans l'opacité la plus absolue. Mmh. Il faut rappeler que la Banque nationale suisse a la responsabilité de l'ensemble du trafic de paiement du pays, qu'il n'y a aucun contrôle de l'État suisse sur ce qui se passe dans cette banque. Parce que c'est une banque, hein. C'est une banque, c'est un organisme qui, on dit national, mais en réalité, elle a une structure d'entreprise privée, d'une société anonyme d'ailleurs. Alors on dit qu'elle est soumise au droit public, elle doit le respecter. Mais dans les faits, elle est gérée avec un directoire de 3 personnes qui sont totalement, ils font ce qu'ils veulent. Et de toute façon, l'essentiel de l'activité a été sous-traité à des entités privées. Alors, on connaît l'histoire où on se demandait qui gérait les actifs de la BNS. Il y a le nom de BlackRock qui circulait. Ils n'ont jamais voulu vraiment confirmer, mais on sait que, de toute façon, ils investissent aux États-Unis massivement dans les titres américains. Personnellement, je ne sais pas si c'est BlackRock ou si c'est quelqu'un d'autre. Maintenant, je sais une autre chose, en revanche, et ça c'est officiel, c'est que Sixt Group, qui est une entreprise de banquiers, constituée par des banquiers, a le total, elle a la responsabilité qui lui a été déléguée par la BNS pour gérer l'ensemble des liquidités qui circulent dans le trafic de paiement. C'est quand même énorme. Hein. Je ne suis même pas sûre. Parfois, je peux me poser la question, est-ce que la BNS contrôle tout? Je ne suis pas sûre. Hein. Mais bon, je ne veux pas m'engager de nouveau là-dessus. Une fois, j'ai sorti un papier il y a quelques années. Qui dirige la BNS dans les faits? Je vous laisse voir le papier. Sixt Group, il est partout. Et Sixt Group gère quelque chose qui s'appelle le repo, d'accord? Le marché des repos passe aussi par cet opérateur, d'accord? Et le marché des repos est un marché parallèle, c'est un marché où il n'y a pas de régulation, c'est un marché, donc on a parlé tout à l'heure hein, du marché privé, c'est là où il y a les produits, les contrats risqués, hein, les hors-bilan. Ça, c'est le repo. Et on trouve le nom de la Banque nationale suisse comme acteur important de ce marché des repos aux côtés de la BCE et de la Réserve fédérale, etc. Et ça, c'était M. Hildebrand qui s'était engagé dessus en septembre 2011, au même moment où il a rimé l'euro, le franc suisse à l'euro. Au même moment, il y a eu une réunion quelque part entre les grandes banques centrales, elles étaient 5, et ce jour-là, ils avaient décidé de mettre des liquidités à disposition du marché. Justement, il y avait cette crise des banques européennes, et ils ont décidé de mettre des liquidités sans compter. De ce que je vois, ça passe par ce marché du repo, marché le plus dangereux de la place financière.
Et en totale opacité, hein.
On ne sait pas. Est-ce que la Banque nationale, parce que les gens disent oui, elle crée la monnaie de rien, elle achète les titres chez les gens, dans les banques, et puis elle écrit juste une écriture simple pour donner la contre-valeur, si vous voulez. Et moi, j'ai dit, voilà, on a là un exemple type. Pourquoi est-ce que la BNS, la Confédération doit donner une garantie à la BNS, hein, sur les prêts de la BNS, si la BNS pouvait fabriquer de monnaie, de rien, autant qu'elle veut. Hein. Donc, voilà, c'est un truc qui ne joue pas. Ça fait des années, en fait, qu'on publie, qu'on a été faire avec Vincent Held, on a été voir, au fond, aussi, de l'autre côté du miroir, ce qui se passait dans les comptes annuels des banques commerciales. Et on a découvert de l'argent qui est déposé, dont des titres qui sont de haute qualité. Ils appellent ça des titres liquides parce qu'ils arrivent à échéance et qui sont aussi de belle qualité. D'accord. Et ces titres-là, en fait, depuis Bâle 3, ça a eu lieu dans les années 2013, les banques sont obligées de garder énormément de liquidités et elles sont obligées d'avoir des titres liquides. Et il y a des normes pour qu'elles les déposent auprès de qui ? De leur banque centrale, forcément, puisque les banques commerciales, à un moment donné, elles doivent déposer, elles déposent leur liquidité auprès de leur banque centrale. Donc, mon hypothèse, qui est plus qu'une hypothèse, mais bon, je vais la garder sous forme d'hypothèse, c'est que la banque centrale se sert dans le trafic de paiement suisse, et c'est avec ça qu'elle achète ses titres, qui sont aussi de grands, qui font courir aussi de grands risques payés, hein, parce que il y a des dettes grecques, les obligations grecques, il y a des obligations françaises, allemandes, il y a de tout, quoi. Hein. Il y a aussi beaucoup d'achats de titres américains, hein, donc de Wall Street. Donc tout ensemble, on voit bien que c'est une entité, c'est une elle est premièrement la Banque nationale suisse, elle est dans le réseau systémique des autres banques nationales mondiales. Et elle est aussi, du coup, avec position de liquidité de manière illimitée en francs suisses. Hein. La Banque nationale suisse, elle met à disposition en francs suisses. Elle-même est devenue la superstructure systémique, hein, à risque systémique.
Donc voilà, donc, c'est la mère de tous les big to fail, mais elle n'est pas listée. Puis donc, elle n'est pas soumise aux mêmes conditions que les big to fail.
Elle n'est pas soumise. De toute façon, on voit bien que même ceux qui sont soumis, ça ne sert pas à grand-chose, puisque Crédit Suisse était soumis et puis ça n'a pas aidé beaucoup. Mais je pense que, et de toute façon, je ne pense pas qu'on puisse, qu'un État, quel qu'il soit, puisse sauver ces grandes banques. C'est possible, hein. Leur puissance financière dépasse les États. On ne peut pas les sauver. Mais la Banque nationale suisse, elle est dans ce système. C'est ça que je voulais dire. Elle est prise dans les mailles de ce filet de réseaux systémiques de grande importance au niveau planétaire. Alors, moi, je pose la question toujours. Je ne fais que poser des questions. Est-ce que, quand je lis ce titre de l'ordonnance, est-ce que M. Berthet est le chancelier ? Parce que cette ordonnance n'est consignée co-signé que par un chancelier. Il n'y a pas deux, c'est pas l'ensemble du Conseil fédéral qui l'a signé. Est-ce qu'il est en train de confirmer, de valider, de légaliser les pratiques de la Banque nationale ? De nouveau, la question elle est sur la table, je ne peux pas répondre. Je dis juste, il faut lire le titre de cette ordonnance. On croyait que, on nous avait dit longtemps que la Banque nationale suisse était indépendante, que le gouvernement ne devait pas se mêler de ce qu'elle fait, et qu'il n'y avait aucun contrôle fédéral dessus, d'accord ? Et qu'elle n'avait pas le droit de prendre des décisions en se référant au Conseil fédéral. Or là, je vois une construction qui mêle à la fois l'argent public, l'entité privée Banque nationale suisse, et puis après, on a pour aller servir des banques d'importance systémique. Une autre question, banques d'importance systémique, on part du principe qu'elles sont suisses, n'est-ce pas ? Mais en fait, moi je ne le lis pas hein, dans le titre. Si je prends la présente ordonnance, c'est dans l'article 1, alinéa A, les prêts d'aide supplémentaires sous forme de liquidité accordés par la Banque nationale suisse à une banque d'importance systémique. On ne me dit pas que c'est seulement le Crédit Suisse sur Suisse, ou non, Crédit Suisse c'est mondial, mais on ne me dit pas si, par exemple, la Deutsche Bank, qui était en Suisse, hein, donc la partie suisse de la Deutsche Bank, hein, elle est concernée par ça ou pas ? Je n'en sais rien, ce n'est pas écrit. Deutsche Bank est une banque d'importance systémique. Est-ce qu'elle est incluse là-dedans ou pas ? Moi, j'en sais rien. Donc, on revient à ce que je disais au début, cette délimitation de l'intervention, pour moi, elle n'est pas claire. Il faut que des représentants de l'État posent des questions, c'est-à-dire je pense aux députés. Il faut poser des questions à ceux qui ont rédigé le texte. Et puis j'attire l'attention de nouveau sur cette présence de la Banque nationale suisse qui est étonnante parce qu'elle est supposée, c'est comme si il devait y avoir un firewall, vous savez, donc on mélange pas, on n'ose pas mélanger, il faut pas que ça se mette. Alors d'un coup, dans l'ordonnance, et Voilà, on est dans, elle peut prêter énormément de liquidités, mais combien, comment, on ne sait pas. Ça me ramène de nouveau à la question de base que je pose depuis 2011. Qui crée la monnaie qui se trouve dans la Banque nationale, dans les comptes de virement des banques? Comme je vous ai dit, on nous a dit que c'était simplement une écriture qui n'avait aucune valeur. Tant mieux, hein, si c'est juste. Simplement qu'on ne peut pas balayer de la main ce que je raconte, c'est-à-dire que, curieusement, ça correspond, les volumes correspondent vraiment de plus en plus à la monnaie centrale, hein, donc, et au trafic de paiement qui est géré par la BNS. Et si ça devait être confirmé que c'est le trafic de paiement qui sert à enflouer les caisses de la Banque nationale suisse, vous voyez, et à ce moment-là, ça lui permet d'acheter des titres, etc., on a un gros problème. On a un immense problème. On a vraiment un gros problème. Ça a pu servir à acheter des titres. C'est-à-dire, la Banque nationale, elle a un passif et elle a un actif, comme toutes les entreprises, hein, à son bilan. Donc, au passif, on trouve ses fonds propres, hein, mais on trouve aussi quelque chose qui s'appelle le compte de virement des banques. D'accord? Et dans ce compte de virement des banques, c'est le plus gros budget, si je veux. Hein, c'est la plus grosse rubrique. Et en face, j'ai des actifs qui sont tout ce qu'elle achète, hein, à l'année. Non. On en a parlé, hein, de ce qu'elle achète, les obligations, etc. La question, c'est qui a créé ce qui est dans le compte des virements. D'accord? La masse est très importante. Elle dépasse et de loin ce qui était prévu au départ, c'est-à-dire que chaque banque doit détenir un minimum pour pas qu'elle lèse ses clients. D'accord? Mais là, on n'est plus simplement à ce niveau-là. On a, ça représente une très grosse partie du bilan de la banque, d'accord? Et normalement, si la BNS avait créé autant d'argent, on aurait dû avoir une méga inflation depuis des années. Or, on ne l'a pas eu, et au contraire, on sentait quand même que les banques rechignaient à prêter, elles compliquaient pour les hypothèques, etc., d'accord? Ça ne correspond pas à ce qu'on a l'habitude de voir si d'un coup il y avait une banque qui fait fonctionner ce qu'on appelait du temps de mes parents la planche à billets. D'accord ? Ce qu'on peut supposer, c'est que l'argent, mais supposer plus que supposer, c'est que l'argent du trafic des paiements qui circule, c'est-à-dire ce sont des comptes à vue, ce sont des comptes qui contiennent... Vous savez, les salaires que les entreprises vont payer, c'est les factures qui sont prévues, etc. Hein? Et voilà. Alors, est-ce que cet argent a servi à acheter les titres de la BNS? Si cet argent a servi à acheter ces actifs, on a un problème, parce que chaque fois qu'il y a un risque que la BNS courir parce que c'est en euros, il y a un risque sur les devises, par exemple. On peut avoir des risques de défaut de paiement pour les obligations publiques. Et on a des risques de faillite pour les titres à Wall Street. D'accord? Ça voudrait dire que la contrepartie de ces pertes, on va les retrouver dans notre compte de virement suisse. D'accord? Et ça, on est en droit de savoir si le trafic de paiement est utilisé ou non, mais il faut qu'ils le disent. Ils ne le disent jamais. D'accord.
Est-ce qu'il y a un moyen de le savoir? On sait qu'il y a il y a un groupement de citoyens qui a un site internet à positif au pluriel.ch là, qui sont devenus actionnaires de la BNS pour aller poser des questions de ce type oui. à l'Assemblée générale. Est-ce
oui,
qu'ils vont le faire?
Est-ce que... la question.
Mm-hmm. Oui, d'accord. Donc ça, c'est vraiment une question à mettre au menu de la prochaine Assemblée générale de la BNS.
C'est indispensable parce que si c'est de la monnaie qui a été créée de rien, comme aurait pu le faire le Zimbabwe ou je ne sais pas qui, hein, à ce moment-là, très bien, il n'y a effectivement aucune perte. Voilà, mais on n'imagine pas une banque centrale faire ce genre de choses aujourd'hui. On ne l'imagine pas, sinon elle le ferait et elle donnerait de l'argent à gogo au Crédit Suisse et elle n'aurait pas besoin de la garantie de l'État suisse, n'est-ce pas? si c'était possible, si ça avait été possible, elle n'aurait pas eu besoin aujourd'hui. Et d'ailleurs, elle a eu besoin aussi d'une garantie dans les années 2008, hein, quand ils ont sauvé UBS, ils ont eu aussi besoin de la garantie de l'État. D'accord ? Mmh. Donc, pourquoi la garantie de l'État ? C'est qu'à un moment donné, au-delà de ces actifs gagnés par l'économie réelle, il y a un plafond. Elle ne peut pas aller au-delà sans entrer dans, effectivement, la création de monnaie partie de rien, avec une simple planche à billets, comme on a pu le voir autrefois dans certains pays.
J'aimerais quand même revenir là sur le manque de transparence. Je vais lire l'article 6 là, de cette ordonnance qui s'appelle « Échange d'informations et traitement des données ». Donc le Département fédéral des finances, la FINMA et la Banque nationale échangent les informations non rendues publiques qui sont nécessaires notamment à l'octroi, à l'administration, à la surveillance et au traitement des prêts d'aide sous forme de liquidité, des garanties du risque de défaillance. Et puis je saute après à l'alinéa 3 qui dit « L'accès à ces informations et à ces données en vertu de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence est exclu. » Alors, qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, parce que ce qui se passe... déjà, on peut relever le fait que c'est curieux qu'une ordonnance exclue une loi fédérale. On peut quand même s'en étonner, non ? Et à la fois... pas trop, parce que la Banque nationale suisse ne veut pas qu'on sache ce qu'elle fait. D'accord ? Donc, elle veut bien communiquer, contrôler ce qu'elle dit, mais vous ne pouvez pas poser des questions pour aller chercher derrière. De toute façon, vous pouvez poser des questions, mais ces informations ne sont pas... les détails de ce qu'elle fait n'est pas disponible. La tuyauterie, bon, il y a des gens qui viennent, qui vous présentent très gentiment. Hein. J'aimerais vraiment insister sur le fait qu'ils sont... à ce niveau-là, la meilleure des banques centrales en termes de communication, hein, vraiment.
D'accord.
Ils sont transparents par rapport au milieu des banques centrales. Hein, donc, on a, grâce à eux, je veux dire, grâce à toutes les données qu'ils mettent à disposition du public, des statistiques, c'est vrai que j'ai pu quand même faire un sacré bout de chemin, mais on aimerait savoir ce qu'il y a derrière. Hein, en français courant, qu'est-ce qui se passe derrière, dans la tuyauterie ? Comment ils se sont imbriqués avec les autres banques centrales pour faire circuler ces liquidités, autant de liquidités, c'est des sommes folles. Donc, ils doivent comprendre que si c'est le trafic de paiement suisse qui est engagé là-dedans, on a besoin de le savoir, c'est notre argent, c'est pas le leur.
Disons, on le sait, et qu'est-ce qu'on peut faire après ?
Vous voulez la vérité ? Je pense pas grand-chose. Maintenant, je pense qu'on peut pas faire grand-chose. Je vais vous dire pourquoi, parce que c'est frustrant ce que je vais dire. Hein. Tout s'est tellement intégré. Vous voyez, les différentes entités se sont tellement intégrées dans ce réseau mondial, c'est très difficile de revenir en arrière pour une banque centrale comme la BNS. Je ne vois pas très bien comment elle peut s'en sortir toute seule. D'accord ? Je ne vois pas comment elle peut dire « maintenant, j'arrête ». Je retire X centaines de milliards du marché et j'arrête. Je ne vois pas. D'accord ? Mais en même temps, elle a besoin d'une couverture de l'État. Parce que à mon avis, de nouveau, je ne suis pas juriste et il faudrait des juristes de très haut vol qui soient d'accord d'analyser. À mon avis, elle a quand même été au-delà. Il y a une urgence pour la Banque nationale. Elle a été au-delà de son mandat. Là où, en 2008, il a fallu l'intervention du Conseil fédéral, du Parlement, tout le monde a débattu, c'était sur la place publique, on fait pas, on fait comment, on va dans les îles Caïmans créer une structure, non, ça plaît pas au public, donc on fait quand même autrement, etc. Cette chose-là, c'est faite avec l'opinion publique qui regardait, d'accord ? Après, est-ce que... à partir de 2008, avec cet accord qu'ils ont eu en septembre 2011 avec les autres banques centrales, est-ce qu'à ce moment-là, elle était encore dans son mandat pour mettre les liquidités à disposition de manière illimitée, etc. Moi, cet article, je l'ai publié plusieurs fois, hein, cet article, je ne me souviens plus, c'était le New York Times, je crois, ou Forbes, je ne sais plus, hein, mais c'était un truc établi. Hein. Donc, est-ce que à ce moment-là, elle sortait de son mandat Et si oui, est-ce que maintenant, par cette ordonnance, on est en train de blanchir ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant et ce qu'elle va faire à partir de maintenant? D'accord? Ça, juridiquement, je ne sais pas, mais je pense que quand même, de le savoir, c'est quelque chose qui est important pour qu'on soit au clair avec ce qui se passe, qu'on sache quels sont les risques qu'on est en train de courir. C'est important. Maintenant, dire que la Banque nationale va se retirer du système dont on a parlé, etc., c'est juste impensable. C'est comme dire maintenant on va faire de UBS de nouveau une banque suisse qui ne va pas aller travailler sur... Non, c'est pas pensable. On est mis au pied du mur. On ne peut pas reculer sans que ça fasse de gros problèmes.
Et quel est le scénario du pire? Qu'est-ce qui peut déraper pour faire en sorte que la BNS peut-être soit à son tour défaillante?
Ça, c'est la grande question. Moi, je ne veux pas répondre comme ça ici, parce que voilà, vous comprenez, je ne peux pas répondre à ça comme ça. Mais c'est embêtant. Ce serait embêtant. C'est embêtant. Le scénario du pire... Voilà, c'est qu'il y ait des défaillances, qu'il y ait des défaillances au niveau des obligations d'État, que l'euro plonge de manière importante, en dollars, elle est aussi en dollars, très équipée en dollars. Et si ce que je dis est juste, c'est-à-dire que c'est le trafic de paiement qui est en train de se monter, on est vraiment mal, parce que ça veut dire qu'elle doit trouver des remplaçants, vous voyez. Je dis juste maintenant, il faut avancer pas à pas, s'assurer de ce qu'on dit, on ne va pas extrapoler, mais on a besoin de savoir si oui ou non le trafic de paiement suisse, des banques suisses, est libre de la Banque nationale, oui ou non. Est-ce qu'il est libre? Est-ce qu'il est à disposition des banques? Ou est-ce qu'il est engagé dans le bilan de la Banque centrale? Engagé, ce que je veux dire, c'est que les actifs qu'elle a, elle a besoin d'avoir cette contre-valeur dans son bilan pour pouvoir rester un partenaire international. D'accord? Donc, si c'est le cas et qu'on devait lui dire qu'elle doit rendre cet argent, elle est obligée d'aller s'endetter sur le marché sur le marché international. Et ce qu'elle a commencé à faire, entre vous et moi, elle a émis des obligations BNS, et ça concorde malheureusement avec les difficultés de Crédit Suisse.
D'accord, donc, et ça a commencé il y a quelques mois?
C'était l'été dernier, elle a commencé à perdre, en fait, elle a vendu à perte des euros, elle a réalisé sa vente, sa perte. C'est-à-dire que... on dit, bon, vous pouvez avoir 100 000 euros en banque, d'accord? À la fin de l'année, vous habitez en Suisse, pour des raisons comptables, on va faire une estimation de vos 100 000 euros en francs suisses. Alors, c'est plus que la valeur de l'année d'avant, ou moins, vous voyez, vous avez fait un gain, vous avez fait une perte, d'accord? Mais tant que vous gardez vos 100 000 euros, dans les faits, vous n'avez pas réalisé, concrétisé la perte ou le gain. D'accord. En revanche, quand vous perdez, parce que par rapport à l'année d'avant, vous avez un euro qui fait 10% de moins par rapport au franc suisse, qu'est-ce qui va se passer? Si vous vendez, vous allez réaliser les 10% de moins. C'est une perte ferme. Or, de ce que j'ai vu l'été dernier, elle s'est mise à vendre de l'euro en été et elle a réalisé donc des pertes. Ce n'est pas juste une écriture comptable, la perte. Une partie de la perte de l'année dernière, c'était là-dessus. Alors, curieusement, alors, ça peut être des concours de circonstances, mais peut-être pas. C'est le moment, l'été, l'automne, Crédit Suisse commençait à avoir de... Enfin, il continuait d'avoir de gros problèmes. Et là, subitement, la BNS s'est mise à émettre des bons BNS. Et ces bons BNS permettent d'apporter, si vous voulez, c'est un apport au passif. Si on reprend ma colonne des passifs et des actifs, c'est un apport qui va pouvoir compenser la diminution d'une autre rubrique. Or, effectivement, il y a une baisse dans le compte des... vous vous souvenez, on a dit qu'il y a un compte courant des banques en Suisse.
Oui.
Et là, il y a eu une baisse à ce niveau-là. Donc, elle est allée sur le marché public chercher de l'argent. Et il y a eu aussi une augmentation au niveau de ses prêts en monnaie étrangère. Ça, les prêts en monnaie étrangère, des choses comme ça, c'est écrit en toutes lettres, hein, ce sont des prêts. Alors, là où la BNS va vous dire tout ce qui est en francs suisses, elle ne va pas le considérer comme un endettement, parce qu'elle va vous dire, moi, j'ai le privilège de la création de monnaie qui m'est octroyée par la Constitution, ce qui est juste. Hein. Elle peut créer de la monnaie, mais la planche à billets, ça, c'est elle qui les crée. D'accord ? Or, cette création-là, on ne la voit pas, elle fluctue d'une année à l'autre, mais pas de manière extraordinaire. Donc, on a des questions. Si, je répète, si la BNS a créé toute cette monnaie d'elle-même, toute seule, comme une grande, et qu'elle a renfloué les comptes des banques, l'incidence sur nous est minime. Moi, je n'appelle pas ce qui se passe aujourd'hui inflation, parce que je ne vois pas de masse monétaire qui augmente et je ne vois pas de vitesse de circulation qui augmente. Ce sont, enfin, voilà, ceux qui ont fait de l'économie savent que c'est proportionnel, l'inflation est proportionnelle à la masse monétaire et à la vitesse de circulation de la monnaie. Donc, si vous n'avez ni l'un ni l'autre, c'est compliqué d'appeler ça inflation. En revanche, il y a des prix qui flambent, et ça c'est un fait, mais ça vient du fait que le nombre d'acteurs sur le marché a diminué drastiquement et personne n'a bougé le petit doigt, c'est-à-dire on a shooté les PME, le Covid va les achever, la crise Covid a achevé quand même une bonne partie des acteurs économiques, mais si vous avez 100 personnes qui vous offrent de la farine, un kilo de farine, ou si vous n'avez plus que 2 personnes, ou si vous n'avez plus qu'un seul marché qui vous offre la farine, vous comprenez que on n'est plus dans les mêmes règles du jeu. Alors, c'est embêtant, parce que si vous voulez, à un moment donné, le même marché, pour d'autres, si je prends les médicaments, ils préfèrent aller vendre ailleurs, en Chine, en Inde, où il y a une population plus importante, et nous, on va manquer ici d'antibiotiques, par exemple. D'accord ? Donc, il y a un jeu stratégique de pouvoir hein, qui est en train de se jouer, qui n'a plus... Enfin, pour moi, ça n'a plus de rapport avec l'économie d'un marché qui a plein d'acteurs, avec une libre concurrence, etc. Dans mes livres, j'ai parlé d'oligopole par secteur d'activité. C'est entre l'oligopole et le monopole. Et si vous allez derrière, au niveau de l'actionnariat, vous retrouvez les mêmes acteurs, que même si on a 3-4 acteurs hein, au niveau d'un secteur d'activité. Si vous allez regarder derrière ce qui se passe au niveau de l'actionnariat, vous allez retrouver à peu près les mêmes hein, qui ont quelques pourcentages suffisants pour influencer la stratégie des uns et des autres. Donc, on est dans un marché qui n'existe pas, c'est un marché qui est absolument faussé. Ils peuvent vous imposer les prix qu'ils veulent, ils peuvent vous vendre ou pas vendre ce qu'ils veulent. Ça, c'est autre chose que la BNS.
Ça mériterait également un entretien dédié à ce thème-là. Hein.
Voilà, ça, j'appelle ça la globalisation des activités, c'est l'intégration au niveau planétaire des différents secteurs d'activité, ça s'est intégré. Alors après, il vous reste encore des labels, des marques, des choses comme ça, mais dans les faits, derrière, on a financiarisé tout ça et les matières premières, les matières essentielles, hein, ou les produits essentiels, ou les outils de production, les processus de production, ils sont quand même largement intégrés et entre les mains de quelques-uns du marché financier, de la haute finance, hein, donc pas marché financier local. Hein, on est au-delà des nations, au-delà des États. Hein, donc ce sont des marchés qui sont vraiment globalisés, mondialisés et ils tiennent la production. Et ça, c'est un autre sujet hein, problématique. Mmh. Parce que, je m'excuse, je déborde un peu, mais vous pourriez demain, dans 6 mois, avoir de l'argent, plein d'argent, et ne pas pouvoir acheter les produits parce que les produits ne sont pas chez vous. Hein. Et ça, c'est décorrélé. Hein. Donc, on est dans un système où on n'a plus d'indépendance dans un secteur d'activité ou dans un autre. Et même si vous voyez le nom de Veolia ou vous voyez un autre nom, pour derrière... Veolia, en tant qu'entité, elle n'est pas capable de prendre des décisions stratégiques au niveau planétaire. Il y a derrière des stratèges qui sont chez BlackRock, Vanguard ou d'ailleurs McKinsey, etc. Donc c'est quand même très complexe. Hein. C'est pas juste, on ne peut pas trouver un coupable. Hein. C'est un système qui s'est installé, qui est très opérationnel, qui est très efficace. Malheureusement, il joue contre le public.
Très bien. Un grand merci pour ces éclairages. Hein. Je pense que pour aujourd'hui, on peut rester là. On va suivre ce dossier de l'ordonnance, de la fusion de l'UBS et du Crédit Suisse. Et puis, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous avez pris pour nos auditeurs. Et puis, peut-être que vous pouvez leur donner les références de votre site Internet.
Alors oui, tout ça, c'est bien sourcé. Tout ce que je raconte, en général, c'est vraiment documenté. C'est sous lilianelkawam.com. Vous pouvez aller. Vous pouvez même trouver, j'ai fini par mettre coup d'état planétaire et dépossession en accès libre. Donc, il y a les PDF qui sont là, qui sont disponibles, parce que j'ai eu tellement de problèmes de censure. Ça semble vraiment beaucoup déranger, surtout pour les vendre en France. Hein. Donc, tout ça est disponible, c'est gratuit, servez-vous et surtout, pensez à l'avenir, hein, à nos enfants, nos petits-enfants. C'est ça qui m'intéresse le plus aujourd'hui.
Voilà, grand merci.
Merci à vous.
Merci Liliane Held, une belle journée à vous.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Vous souhaitez faire un geste engagé ? Devenez donateur, contributeur, mécène pour Radio Libre. Toutes les informations sur radiolibre.ch. Merci.